Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver avec toute l'équipe du vendredi. On est ensemble jusqu'à 20h55. Mohamed, Pierre, Patrick et Mathieu, salut à tous les quatre.
Bonsoir Mohamed,
votre story ce soir.
Je vous parle ce soir des 26 mineurs rescapés de l'Ocean Viking qui ont fugué ces dernières heures de leur structure d'accueil.
Patrick, votre édito.
Aurons-nous assez de courant cet hiver? Suite du feuilleton avec une nouvelle alerte de RTE, des risques important de coupure, de tension sur le réseau en janvier.
Pierre, votre œil ce soir.
98, Jacques Chirac, premier supporter d'Aimé Jacquet. 2018, Emmanuel Macron rebondissant sur la deuxième étoile des Bleus. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi il faut absolument regarder les Bleus et l'Elysée, un formidable document, ici même sur France 5, dimanche soir.
Ah, j'ai cru que vous allez dire pourquoi il faut absolument regarder la Coupe du Monde au Qatar. Aussi vient de dire Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux aux Olympiques et Paralympiques. Merci d'avoir accepté notre invitation à deux jours de l'ouverture de cette Coupe du Monde qui continue à susciter le débat. On y revient longuement dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Plus belle la vie, c'est fini. Je sais, ça va être dur. C'est ce soir la dernière et on a pu visiter le plateau, les studios de la Belle de Mai à Marseille et ce quartier fictif du Mistral. On est dans Plus belle la vie, on est dans Plus belle la vie.
Voilà, dans les coulisses de Plus belle la vie et dans les coulisses aussi de la matinale de France Info. Voilà mon duo préféré à la radio, Salia Braclia et Marc Fauvel. Se paye carrément le luxe d'être des stars de cinéma, puisqu'un film sort la semaine prochaine dans les salles et qui nous raconte comment le service public a mené la campagne présidentielle, les questions qui animent les rédactions, comment interviewer les responsables politiques. Et ils seront dans un instant sur notre plateau. Service public, c'est le titre de cet excellent film, co-réalisé par Mouloud Achour et Sadia Braclia. Notre invité du dîner, il n'y en a qu'un seul. Michel Polnareff, l'amiral qui fait son retour, ça faisait 6 ans qu'on ne l'avait pas vu en France ni à la télévision. Il a choisi C'est à vous pour nous parler de son album Piano Voix avec toutes ses plus belles chansons. Polnareff chante Polnareff et il sera sur la scène de C'est à vous. Rendez-vous.
Événement.
Ah oui, c'est un événement considérable. Rendez-vous à partir de 20h. On est prêts, nous. Est-ce que l'édito de Patrick Fouet est prêt? Réponse dans une seconde.
Un autre.
Oui, ce qui n'est pas prêt, c'est le réseau électrique. RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, alerte sur un risque élevé de tension en janvier. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on pourrait manquer de courant au début de l'an prochain, qu'il y a un risque important de coupure, de délestage, comme disent les électriciens, si l'hiver est très froid et si les Français ne réduisent pas leur consommation.
RTE est plus pessimiste qu'auparavant?
Pas exactement. Le risque est atténué d'ici la fin décembre, c'est la bonne nouvelle, mais il est plus important en janvier, c'est la mauvaise. Si les coupures s'éloignent en 2022, c'est surtout grâce à la baisse globale de la consommation d'énergie. On va le voir sur ce graphique, la courbe de référence en noir, en rouge, on a inversé les couleurs, la courbe de référence en rouge, c'est celle de 2018 pour le gaz et l'électricité que nous avons consommé. Celle de 2022 s'affiche en noir ou en rouge foncé, avec un recul de près de 7% de la consommation électrique durant le mois écoulé par rapport aux années antérieures.
Est-ce que c'est à cause des températures clémentes?
Oui, mais pas seulement. C'est aussi à cause du ralentissement économique provoqué par l'inflation, avec des baisses de production dans l'industrie, quand ce n'est pas un arrêt de production complet, à l'instar des verres Duralex. On en avait parlé ici même.
Et en janvier, qu'est-ce qui va changer?
Quelques gigawatts d'écart par rapport au scénario de base présenté en septembre. C'est encore notre parc de centrales nucléaires qui tarde à redémarrer. Quelques chiffres pour comprendre ce qui pourrait nous manquer. La capacité des centrales françaises, capacité totale, c'est 61 gigawatts. Avec ça, non seulement on passe l'hiver tranquille, mais on envoie de la lumière dans une partie de l'Europe. On sait qu'on en est loin. Maintenance et corrosion, la moitié des réacteurs a été arrêtée. Le redémarrage est progressif. En septembre, la prévision de disponibilité au 1er janvier était de 45 gigawatts. EDF dit encore 48. Ça passait juste. Mais RTE estime aujourd'hui que le scénario le plus probable, c'est qu'on soit à 40 gigawatts seulement début janvier. Retard de maintenance et grève dans les centrales qui ont arrêté certains travaux. Là, ça risque de devenir compliqué.
Avec des coupures possibles d'une heure à l'autre ?
A priori, non. Pas sans prévenir. On a le dispositif EcoWatt, une sorte de météo de l'électricité disponible en ligne ou sur son smartphone par une appli dédiée. On peut être abonné aux alertes avec une alerte orange qui dit qu'on est ric-rac et qui invite les Français à baisser leur consommation, et une alerte rouge qui indique qu'il n'y a plus assez de courant pour couvrir tous les besoins et que des coupures de 2 heures maximum pourraient avoir lieu, entreprises et particuliers.
Surtout en janvier.
Exactement, c'est le mois périlleux. RTE explique que le risque global sur tout l'hiver n'a pas changé. Il est moindre en décembre, en février et en mars, mais il est plus fort en janvier désormais.
Est-ce que ces possibles coupures vous inquiètent, Amélie Oudéa, Castera ? Il ne suffira pas de baisser, d'éteindre et de décaler, quoi, visiblement.
Je pense qu'on a un dispositif, il y a de l'anticipation, il y a de la progressivité. Le 6 octobre dernier, la Première ministre, elle a annoncé son plan de sobriété énergétique avec Agnès Pannier-Runacher. Moi, j'étais là aussi parce que les acteurs du sport portent une part de ce plan. On a des mesures sur le chauffage, sur l'éclairage, anticiper qu'est-ce qui se passe en cas d'éco-signal, de signal éco-watt rouge, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Dans chaque secteur d'activité, on a défini les dispositifs qu'il faut que nos acteurs prennent.
Donc on est prêt à faire face à ces coupures, mais on n'est pas prêt à les éviter, quoi, en gros. On ne pourra peut-être pas les éviter.
Si elles doivent se produire, on s'adaptera. Ça sera sur des périodes limitées. Et je pense que ce qui est important, c'est l'anticipation. C'est de donner cette petite avance dans la capacité à... et un mode d'emploi pour avoir les mesures qu'on peut prendre. Nous, on les a définies dans le monde du sport.
À 2 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar et avant le premier match des Bleus, les critiques pleuvent sur le capitaine de l'équipe de France qui a la question... Porterez-vous le brassard aux couleurs arc-en-ciel en soutien aux minorités sexuelles discriminées dans les Émirats ? Répond non.
Sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Les gens feraient de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça.
C'est une honte pour l'ancien footballeur Yoann Lemaire, symbole de la lutte contre l'homophobie dans le foot. Le port d'un brassard, c'est le minimum d'engagement, s'indigne un président d'association LGBT+. On n'a même pas ce minimum syndical. On est en dessous du degré zéro de l'engagement. Comment peut-on dire qu'on va respecter la culture d'un pays où l'homosexualité est illégale ?
Plusieurs choses. D'abord, ce brassard, l'équipe de France l'avait porté pendant la Ligue des Nations. Capitaine Varane, capitaine Griezmann, Autriche, Danemark. Moi, j'avais salué cette initiative.
Et pourquoi ne pas
J'avais trouvé ça bien, je l'avais dit et je n'ai pas changé
pourquoi
d'avis.
Pourquoi pas le refaire là
maintenant ? Je n'ai pas changé d'avis. Le point qu'il faut avoir en tête, c'est d'abord la Fédération française de foot qui, par la voix de son président, donne plus ou moins la consigne de ne pas porter ce brassard. Puis il y a une décision qui est encore attendue de la FIFA sur qu'est-ce qu'il en est du régime de ce brassard. Pour l'instant, elle n'est pas officiellement, explicitement tombée, cette décision.
Il faut attendre l'autorisation de la FIFA.
Moi, je continue d'avoir l'espoir que le régime puisse s'améliorer. Après, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté sur les convictions d'Hugo Lloris. Vous avez vu la lettre des Bleus dans laquelle tous, absolument, ils s'insurgent contre toutes les formes de discrimination. Ils disent qu'ils sont engagés pour le respect des droits humains, que sur le fond Génération 2018, ils soutiendront des ONG qui sont derrière cette... Donc, sur les droits LGBT, il n'y a aucune ambiguïté à avoir. Il faut une protection absolue.
C'est les propos qui sont maladroits. C'est quoi ? Vous reconnaissez que l'expression heurte Je respecte les cultures.
Respecter leurs règles, c'était un peu rude.
Non, et d'autant que, je veux dire, le Qatar a pris des engagements très clairs qu'il n'y aurait aucune discrimination, aucune place pour ça, et que les personnes homosexuelles, l'ensemble des droits LGBT seraient protégés. Nous y serons extraordinairement vigilants. Il n'y a aucune place possible à une atteinte de ça. Et nos autorités, d'ailleurs consulaires sur place, en cas de problème, veilleront à la bonne application, au bon respect.
Que risqueraient les Bleus à porter ce brassard ? C'est ça qu'on ne comprend pas bien. Au pire, quoi. Une amende ?
Le régime n'est pas encore défini. Moi, j'ai entendu un certain nombre de fédérations en Europe, les Anglais, Harry Kane, dire des choses, le DG
lui,
de la Fédé
anglaise. Lui, il dit qu'il est prêt à payer une amende.
Ils sont prêts
si
à le faire,
FIFA interdit ce brassard.
Je pense qu'il y a un côté application d'un cadre. Moi, j'en ai longuement parlé au dîner quand je suis allée à Clairefontaine avec Didier Deschamps, qui était à ma gauche, avec Hugo Lloris. On a beaucoup parlé de ce sujet-là. Donc, je connais très bien leur position qui est absolument sans ambiguïté sur le respect des droits LGBT et la lutte contre toutes les formes
d'accord,
de discrimination.
D'accord, mais est-ce qu'il a compris que sa formule avait choqué ? Est-ce qu'il a compris pourquoi ?
Je n'ai pas débriefé depuis avec lui, mais je pense qu'il se rend compte que ses propos, oui, ont pu heurter. Je pense qu'il s'en rend compte. Moi, quand j'en ai parlé avec lui lundi soir, je n'ai pas débriefé en ces termes-là. Ce qui était pour moi très important, c'était de sentir les Bleus engagés. Mmh. Engagés derrière les droits humains, prêts à se mobiliser, prêts à exercer leur liberté, leur jugement, pour prendre l'initiative et être acteurs de cette protection des droits, droits humains, droits LGBT et lutte contre toutes les formes de discrimination.
Vous l'avez dit, d'autres fédérations internationales ont pris des engagements. Voilà quelques exemples, l'Angleterre, mais aussi les Pays-Bas ou encore l'Australie.
These are the basic rights that should be afforded to all and will ensure continued progress in Qatar.
This is how we can ensure a legacy that goes well beyond the final whistle of the 2022 FIFA World Cup.
We're not blind, we're not deaf, you know, we see all the news outlets saying so many things about what's going on over here. So for us it's good to have our own opinion, have to look ourselves and meet people.
Wearing the armband on the biggest stage in the world, one of the most televised events in the world, will have an impact.
Are you expecting any punishment for wearing them here at the World Cup?
I think there's a possibility that we might be fined, and if we are, then we'll pay the fine. We think it's really important to show our values.
Est-ce que ces fédérations sont plus courageuses que la Fédération française de football?
Oui, mais exprimer ses valeurs, exprimer ses valeurs, les Bleus l'ont fait dans leur lettre. La lettre qu'ils publient mardi...
Ce qu'on retient, ce n'est pas la lettre.
Elle est très importante. Chaque mot qui est écrit, moi, je l'ai lu très attentivement, parce que j'étais évidemment très attentive à la manière dont ils allaient s'exprimer. Moi, j'ai toujours dit ils doivent être libres. Lorsque je suis allée le lundi soir à Clairefontaine, je leur ai dit « Soyez libres ». Il n'y a aucun type d'entrave à ce que vous pouvez exprimer. Et souvenez-vous que dans Équipe de France, il y a France qui est un pays qui a beaucoup fait pour la défense des droits humains.
Donc ils ne se sentent pas libres.
Donc moi je pense qu'aujourd'hui ils sont un peu coincés parce qu'il y a une position de la Fédération française de foot.
Pourquoi,
il y a cette attente vis-à-vis à l'égard de la FIFA où on ne sait pas comment elle va.
Pourquoi Harry Kane, lui qui se sent libre, n'est pas coincé?
Je pense qu'ils ont choisi chacun leur modalité d'expression. Ce qu'ont fait les Bleus d'annoncer qu'ils vont mobiliser leurs fonds Génération 2018, qui vont financer un certain nombre d'ONG qui sont engagées dans la protection des droits humains, c'est aussi une modalité d'action qui est respectable, elle est engagée. Pour moi, le plus important, c'est de sentir nos Bleus engagés et concernés. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai, moi je les sens un peu coincés dans une fédération française de foot, son président qui leur a plus ou moins donné cette consigne, la FIFA dont on ne sait pas, on est encore à 48 heures de l'événement, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle va dire ou pas sur cette question du port du brassard. On pensait que la réponse serait non, moi je note qu'elle n'a toujours pas été vraiment donnée, donc tant qu'on est dans ce régime un peu d'entre-deux, il est encore permis d'espérer que les choses puissent évoluer. Je note par ailleurs que la FIFA a elle-même annoncé qu'elle défendrait, qu'elle mettrait en valeur un certain nombre de causes avec des brassards. Donc, je pense que pour l'instant, le régime de ces divers brassards, ce qui sera autorisé, ce qui ne le sera pas, et l'initiative de la FIFA, elle est encore en définition. Moi, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, je lui ai exprimé notre souhait qu'il y ait vraiment sans ambiguïté, que ces messages soient portés, qu'ils soient portables et qu'ils puissent s'exprimer. Je pense que chaque équipe a sa façon de réagir et je ne crois pas qu'il faille comparer, jauger. La compétition, elle est sur le terrain. Ce qui est important, encore une fois, c'est de sentir que les Bleus sont engagés. Et vraiment, sans ambiguïté à travers leur lettre, leur initiative et les échanges que j'ai avec eux, je n'ai aucun doute là-dessus.
Il ne faut pas politiser le sport, a dit hier le président Emmanuel Macron. Pourtant, est-ce qu'il n'y a pas, il y a difficilement plus politique qu'une compétition sportive dans laquelle on porte un maillot aux couleurs de la France, on chante la Marseillaise avant un match de l'équipe de France. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de dire qu'il ne faut pas politiser le sport?
Moi, j'ai... Enfin, le président de la République, chaque jour, il est attentif à ce qu'on mette le sport un peu plus au cœur de la cité. Mmh. Il a été à l'initiative de politiques publiques sportives dans le sport, ambitieuses comme jamais dans notre pays. Donc le fait qu'il faille mettre le sport au cœur de notre projet de société, il est sans ambiguïté là-dessus, il est moteur de cette vision-là. Ce qu'il veut exprimer là, c'est qu'il ne faut pas que le sport soit récupéré, instrumentalisé à des fins de polémiques politiciennes. Et je pense en ça qu'il a raison. Je pense qu'il faut que les joueurs soient au maximum préservés des polémiques, qu'ils puissent se concentrer sur le jeu. Je pense que les supporters eux-mêmes doivent être libres de vivre leur passion pour le foot sans être culpabilisés. Et je pense que le sport doit être vu comme un instrument qui est là aussi pour montrer ce que les peuples ont en commun, un instrument de paix, un instrument,
oui, il y a pacifique. Des messages.
Voilà, il y a des messages qui sont importants. Pas des récupérations politiciennes pour critiquer un événement alors qu'on n'a rien dit pendant 12 ans. C'est un événement qui a été attribué par la FIFA en 2010. Il y en a qui se réveillent un peu tard pour se donner un peu tard une bonne conscience, me semble-t-il.
Hier, on recevait sur ce plateau un des dirigeants d'une association de supporters des Bleus, les Irrésistibles Français, qui a fait le choix, lui, vous allez l'entendre, de, malgré sa passion du foot, de ne pas se rendre au Qatar. L'Émirat, il nous le racontait, qui aurait tenté il y a quelques mois de séduire des supporters en leur proposant gratuitement hôtel, billets et cartes prépayées.
Beaucoup d'irrésistibles français ont été contactés il y a un an et demi pour être le fameux fan leader, ceux qui allaient inviter ensuite les uns et les autres. On a tous dit non.
Moyennant de l'argent ?
Non. En tout cas, nous, la seule chose que l'on avait à l'époque et que l'on sait maintenant, c'est on nous payait nos billets d'avion, nos places de match et nos logements. Ce qui, en soi, n'est quand même pas déjà négligeable. Hein, quand on sait ce que vont payer les supporters.
Et en échange, vous deviez faire de la communication.
Alors, quand on vous paye le logement, les billets et les places, et l'avion, on peut au moins considérer qu'on va éviter de critiquer ceux qui vous payent.
C'est une pratique habituelle dans d'autres Coupes du Monde ou c'était une initiative qatari?
Je pense qu'elle est probablement un peu spéciale dans sa proportion, sa magnitude. Des invitations,
C'était un package.
Voilà, c'est certainement pas la première fois, pas la dernière fois non plus. Peut-être qu'à cette échelle, voilà, c'est un peu particulier.
C'est un peu particulier.
Mohamed.
Depuis l'apparition de l'enquête de SoFoot en septembre dernier, le président de la FFF, Noël Le Graët, est dans la tourmente, soupçonné d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel. Il a une nouvelle fois nié ces accusations avec une défense pour le moins étonnante.
Vous avez jamais harcelé personne?
Personne.
Vous n'avez jamais envoyé de SMS déplacés à des collaboratrices?
Je ne sais même pas les écrire. Écoutez, pour le moment, j'ai porté plainte, parce que moi, je n'ai pas envoyé de SMS. Il n'y a pas de SMS de ma part. Voilà, et je vous le...
Oui, mais qui les a envoyés, alors?
Non, mais je m'en fous pour le moment. Chaque chose en son temps. Quand j'aurai fait la Coupe du Monde, je m'occuperai du temps qui convient pour voir qui m'a fait cette vacherie.
Amélie Oudéa-Castéra, vous avez commandé un audit au sein de la FFF qui est toujours en cours. En attendant, cette affaire perturbe les Bleus. À chaque conférence de presse, il y a une question pour les joueurs de l'équipe de France. À chaque interview, il y a une question aussi au sélectionneur Didier Deschamps. Surtout, on voit la gêne de Didier Deschamps quand il évoque le cas Noël Le Graët.
Il y en a beaucoup qui affirment des choses qui sont totalement fausses et erronées. Mais c'est comme ça, c'est la course au buzz, à l'info. L'info qui ne sont plus des infos aujourd'hui. Quoi. Depuis dimanche, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir que les infos, les adversaires qui concernent la compétition, tout le blablabla, je sais, il y est. Mais depuis bien longtemps, je suis déconnecté de tout ça.
Pourquoi ne pas avoir demandé la mise en retrait de Noël Le Graët? La FFF est investie d'une mission de service public. Donc, en tant que ministre des Sports, vous aviez la possibilité de demander la mise en retrait. Pas de demander son licenciement, pas de demander son départ, mais au moins sa mise en retrait.
Moi, je ne crois pas que cette affaire, d'abord, perturbe les Bleus. En tout cas, moi, j'ai toujours fait extrêmement attention à ce que les Bleus soient absolument préservés de ces éléments-là relatifs à la Fédé de foot comme des autres polémiques. Et de marteler qu'ils doivent pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Ils ont une pression importante, ils sont les tenants du titre, c'est une compétition excessivement difficile. Ils doivent pouvoir vraiment être tournés sur le jeu. Je pense que ce point est très important. Sur le reste, aussitôt que j'ai pris connaissance des articles de SoFoot, j'ai enclenché cet audit. Aussitôt que on a pris connaissance des éléments d'enquête restitués par Romain Molina, on a adjoint un second volet. Premier volet tourné sur l'analyse des conditions de pilotage de management de cette fédération, en regardant les choses de manière très fine, très précise, en ayant accès à tous les documents, avec un engagement que j'avais reçu de Noël Le Graët de transparence absolue. Et puis on a adjoint un deuxième volet sur l'attitude de la Fédé de foot par rapport à tous ces phénomènes de violence à caractère sexiste ou sexuel, parce qu'on l'a vu,
mais vous pouvez
il faut qu'elle
que
s'empare
ça...
mieux de ces sujets, qu'elle soit beaucoup plus exemplaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est la première Fédé de foot, 2 millions de licenciés, 15 000 clubs.
Vous pouvez comprendre, Amélie Oudéa-Castéra, que quand il y a autant de témoignages sur une personne, quand il y a autant de critiques, quand il y a autant de révélations de la part de médias, une mise en retrait ne signifie pas condamnation. Et ces bleus, vous disiez tout à l'heure que ça ne les dérange pas. Je discute avec certains joueurs de l'équipe de France. Ce conflit qu'il y a autour de la fédération, ces critiques, ces allégations, ça les dérange dans leur préparation?
Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça les dérange. Aucun d'eux ne m'a dit ces choses-là. Et on fait encore une fois très attention à bien distinguer les choses. Cet audit, il va aller au bout. Et j'en tirerai toutes les conclusions. Quand j'ai entendu l'autre jour que Noël Le Graët se dit très serein, moi j'attends les conclusions de cet audit. Et je lui ai dit, ma main, elle ne tremblera pas. Je pense que j'ai montré que j'étais capable de prendre mes responsabilités sur cette fédération, avec ce président, je le ferai de la même façon. Simplement, il y a un temps pour tout. Là, pour l'instant, il y a un travail qui est à charge, à décharge, respect des droits de la défense. Il faut que l'audit puisse se terminer dans les meilleures conditions. Si j'avais entendu quoi que ce soit, par exemple, que l'équipe d'inspecteurs n'arrivait pas à accéder aux documents, qu'il y avait obstruction, que j'aurais pris des mesures. L'équipe travaille sereinement, elle avance bien et toute la lumière sera faite sur ses affaires.
Sport et politique, surtout en cas de victoire, font souvent une dynamique. Et au football en particulier, un documentaire spectaculaire traite ce sujet, Pierre, et il est proposé dimanche soir à 20h50 sur France 5.
Eh oui, et c'est passionnant, et ça s'appelle « Les Bleus et l'Élysée ». Et effectivement, qu'on soit fan de foot ou passionné de politique, ou les deux, et vous savez que c'est compatible, vous en savez quelque chose, on voit tout au long de ce documentaire la montée en puissance de la popularité du foot dans l'Hexagone, mais on sait que dans les années 50, 60, 70, l'attente sera longue pour les premiers titres. Et puis en 98, on est en cohabitation, Lionel Jospin est beaucoup plus populaire que Jacques Chirac. Jacques Chirac va parier très habilement sur Aimé Jacquet, lui qui pourtant n'est pas vraiment fan de foot.
On ne connaît quasiment pas les joueurs. D'ailleurs, quand les joueurs de l'équipe sont égrenés, ils miment avec ses lèvres, mais en fait, on voit qu'il ne les connaît pas.
Et voilà, on retrouve toujours, si j'ose dire, avec affection, ces images de Jacques Chirac
égrenant. Notre président connaît les noms.
Ah oui, oui, ça, on n'est pas du tout dans le même
authentique
profil
amour du sport
footballistique. Je voudrais vous montrer deux autres extraits qui traitent de situations beaucoup plus proches de nous, et notamment lors des attentats de 2015 et cette fameuse soirée au Stade de France où des explosions retentissent alors qu'on tire à Paris. C'est Olivier Giroud qui parle.
On a resté concentré sur le terrain, on a continué à jouer. Voilà, ils ont voulu nous préserver jusqu'à la fin du match pour pas qu'il y ait de mouvement de panique, quoi.
Ils ont joué néanmoins plus qu'une partie de football. Ils ont joué un rôle très important pour qu'il n'y ait aucune conséquence dommageable pour le public de l'attaque terroriste. Et c'est pour moi une gratitude que j'exprime à l'égard de l'équipe de France.
À la fin du match, dans les vestiaires, ils mettent les news sur les écrans. Nous, évidemment, on voit sur les portables ce qui est en train de se passer. On est tous choqués, abasourdis, à terre. Et on va être là dans les vestiaires pour plusieurs heures.
Je voudrais que vous retrouviez aussi un autre document, un moment très étonnant de ce document réalisé par Dimitri Kefelec et un certain Mohamed Bouafsi, un moment très étonnant de sourire à distance entre le président de la République, Emmanuel Macron, et son prédécesseur, François Hollande, lequel évoque la défaite à l'Euro 2016, qui annonçait finalement une victoire en 2018. Que fêterait son successeur ?
Une victoire dans une grande compétition a un impact. Je pense d'ailleurs que la frustration de ne pas avoir gagné l'euro alors que nous étions, les meilleurs dans la compétition déjà de l'euro, les a conduits à être encore plus motivés pour la Coupe du Monde. Un président travaille toujours pour son successeur. D'une certaine façon, l'euro 2016 a permis la victoire de 2018.
C'est vrai. Je pense que c'est juste. On construit toujours sur ce qui a été fait avant nous. Et 2016 a préparé 2018 en foot et sur beaucoup de choses aussi de la vie économique et politique.
C'est magnifique cet échange, parce que Emmanuel Macron, toujours aussi habile, évoque le propos de François Hollande, rebondit sur, même en économie, qui était ministre de l'économie de François Hollande, un certain Macron, Emmanuel. C'est un beau passage, hein.
Beau passage.
C'est magnifique. J'ai encore un dernier petit élément, tout à fait joli. Si on est champion, le bus roulera sans doute plus longtemps, vous allez voir.
Ouais. On ira les soutenir en finale. Oui, oui. Mais je croise les doigts, on est derrière eux. Et le 18 décembre, le car descendra lentement. Cette fois-ci, des Champs-Élysées.
Une espèce de mea culpa.
Oui. Ça veut dire sans Alexandre Benalla. Il est allé un peu trop vite.
Ah là là. En tout cas, beau boulot. Beau doc. Dimanche, 20h55. Sur 20h50
sur France 5, les Bleus et l'Elysée, le président qui ira au Qatar. Si les Bleus atteignent la demi-finale, vous y serez dans les quarts de finale sans réserve.
Absolument. Avec envie que cette compétition démarre pour qu'on arrive à se concentrer sur sport. La passion autour de ce sport.
Vu des coulisses, comment prépare-t-on une interview politique ? Est-ce que c'est une question que vous vous posez ? Surtout pendant l'élection la plus importante du pays, la présidentielle. Pendant un an, une caméra a filmé la rédaction de la matinale de France Info. Stress, doute, interrogation, tension avec les candidats et leur soutien. Et un passage obligé, quelles questions exactement leur poser et comment ?
En attendant, Frédéric Ciotti demain. Visiblement, il a des propositions à nous donner en exclu.
Alors, on y va, des grands thèmes. Sa candidature. Ouais. Pourquoi tu y vas, Eric? Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans?
On lui parle d'économie à Ciotti?
Mais justement.
Il veut être président de la République. On va pas lui parler que de ses trucs de sécurité. Non?
Ouais, c'est vrai, il n'a pas tort. Oui, il faut aller chercher un peu sur des thèmes où il est peut-être un peu moins à l'aise, quoi.
Les chiffres de l'immigration. Parce que lui, il dit, vous vous rendez compte, on a accueilli près de 500 000 étrangers.
C'était pas Brie, t'es sûr ?
En 2019.
C'est pas quand elle a parlé à Brie.
Ça avance, oui.
On a vérifié tous les chiffres de l'immigration.
Salia Braclia, Marc Fauvel, salut au duo de l'interview politique de France Info du lundi au jeudi à 8h30 dans le 7-9h30 animé par Marc. Une interview politique dont on va découvrir les coulisses sur grand écran. La radio, ça ne vous suffit pas. Vous passez directement de la radio au cinéma.
Donc, oui, c'est pourquoi pas.
Réalisé par vous, Salia et Mouloudéchou.
Et bientôt en cinémascope, alors.
Voilà, exactement. Montrer les coulisses d'une campagne, c'est un exercice de transparence impératif en ces temps où moins d'un Français sur deux dit avoir confiance dans le travail des journalistes. On demande de la transparence à nos responsables politiques. Il faut de la transparence aussi du côté des journalistes.
Oui, c'est ce que je crois, c'est ce qu'on croit. Si je parle au nom de Marc qui est juste à côté de moi. Le film, on a voulu le faire avec Mouloud Achour parce qu'il y a une défiance telle aujourd'hui envers les journalistes, envers les politiques. Il y a beaucoup de fantasmes aussi. Et donc, on s'est dit que le meilleur moyen... d'atténuer ça, parce qu'on n'y arrivera pas totalement, mais d'essayer de faire comprendre aux Français comment les journalistes travaillent, c'est de mettre une caméra pendant une élection présidentielle où l'enjeu est très important pour le pays, et de montrer comment on travaille pour faire toute la transparence, pour montrer qu'on fait preuve de rigueur, pour montrer que les journalistes, ça ne s'improvise pas. Et qu'il y a une déontologie, que les rapports avec les politiques, c'est pas ce qu'on imagine, on n'est pas tous des copains. Et donc, il fallait faire ce travail de transparence.
Sans jamais couper la caméra, Marc ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la caméra n'était jamais coupée à certains moments
On a enlevé mes pires blagues. Et j'ai demandé exclusivement un droit de regard là-dessus, parce qu'honnêtement, il y a des matins où je ne suis pas tenable.
Mais à part ça, tout le monde a joué le jeu, cet exercice de la transparence.
Tout le monde a accepté.
Sans inquiétude.
Avec un peu d'inquiétude, parce que si on filme ce qui se passe en coulisses, dans un resto, dans cette émission ou partout, il y a toujours des moments où il peut se passer des choses. Voilà, mais au bout d'un moment, d'abord, vous oubliez la présence de la caméra. Vraiment, et pour revenir sur ce que disait Damo sur Salia, les auditeurs, les téléspectateurs le matin entendent une question. Ce qu'on voulait voir, c'est comment on arrive à cette question. C'est-à-dire parce que nous disent nos reporters sur le terrain qui peuvent sentir des choses qui montent, parce que nous dit notre cellule de vérification de l'info. Les invités, ils ont tendance, c'est là où on est parfois meilleur qu'eux, à répéter les mêmes bobards de plateau en plateau. On a la chance d'avoir une agence qui nous vérifie ça. Donc, ils ne nous font pas le coup. Voilà, ils savent qu'ils arrivent à un endroit où s'ils nous ressortent les chiffres qu'ils ont déjà ressortis trois fois avant et qui étaient faux trois fois, on ne laissera pas passer.
Une rédaction dont on voit qu'elle se pose des questions sur les sondages qui sont relayés à l'antenne. Évidemment, on sait l'importance des sondages dans une présidentielle. Témoin Sensen, en pleine nuit, à 6 mois de l'élection, Éric Zemmour fait une percée dans les intentions de sondage.
Nous sommes à 6 mois, blablabla, blablabla, bla bla, mais pour la première fois, une enquête Harris en enquête interne, montre qu'Harris en interne, d'où Marine Le Pen, en mesure ce qu'elle est face à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour vous? Pourquoi il grimpe autant?
Ça veut dire qu'on prend au sérieux ces sondages.
Bah, ça veut dire que quand...
On prend pas les sondeurs pour des charlatans qui font du spectacle.
On prend au sérieux les tendances. Et qu'il y a une tendance depuis 2 mois et demi qui est que...
Il y a une dynamique. On ne peut pas dire Facebook est irresponsable vis-à-vis de la démocratie aux États-Unis et chez nous en France, jouer avec des trucs de sondages et de spectacles et de l'argent, c'est l'argent qui prime là dans ces sondages.
Ça déterminé en fonction des sondages.
Tu sais bien qu'avec la marge d'erreur, Zemmour, il est en dessous de Le Pen. Enfin, ça n'a aucun sens.
Oui, mais il y a une tendance qui est que Marine Le Pen, elle est passée de 28 à 15.
C'est les dynamiques là.
Il y a une dynamique.
Elle pose une bonne question, Marion Lagardère, c'est l'une des chroniqueuses de la matinale. Est-ce qu'il faut donner autant d'importance aux sondages?
Nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est que déjà, on avait notre sondeur en qui on avait justement confiance. La question de la fiabilité des sondages, elle se pose à chaque élection, évidemment, parce que ça a un impact, on le sait, sur l'opinion publique. Nous, on avait notre propre sondeur, on avait aussi notre réflexion, parce qu'on est journaliste et on voit ce qui se passe dans le pays. On
en fait très peu des sondages sur l'antenne. Hein.
Et voilà,
on est une des radios les moins gourmandes en sondage.
C'est pas le sujet.
C'est pas le sujet. C'est à partir de quand parler de Zemmour? C'est
ça, parler
de Zemmour et l'inviter à l'antenne.
Bien sûr.
Et on voit, et c'est très intéressant, que la décision, elle est politique. C'est-à-dire, il s'agit de couper le sifflet du camp Zemmour et de tous ceux qui disent le service public est partial parce qu'il ne veut pas donner la parole à Éric Zemmour.
On s'est posé la question pendant 2 mois, au moment où les sondages montraient l'ascension d'Éric Zemmour, de savoir si on l'invitait ou pas. On s'est même un peu engueulé.
Oui, il n'y a pas l'invité tant qu'il n'était pas candidat.
Faut-il l'inviter et donc le faire grimper, parce que lui donner accès aux médias, c'est le faire grimper quelque part, ou ne pas. On a décidé, nous, de l'inviter le jour où il a dit, non pas qu'il était candidat, parce qu'il l'a fait quelques jours plus après notre interview, mais le jour où il a dit... Rien ne s'y oppose aujourd'hui. On a considéré que c'était un acte de candidature et que ne pas l'inviter... justement, ferait qu'on nous dirait pourquoi le service public, parce que le service public est encore plus attendu au tournant que les autres médias, pourquoi il ne l'inviterait pas. Et ensuite, on a fait un autre choix le jour où on l'invitait, c'est de ne pas le questionner sur ses thèmes de prédilection. On connaissait ses positions sur l'immigration, sur le grand remplacement.
Et ça l'agace d'ailleurs.
Et on a parlé famille, économie, ce qui l'a assez d'achat. Prodigieusement agacé. Et on a fait une interview qui était, de mon point de vue en tout cas,
correcte. Différente de tous les autres, oui.
Et il était très surpris de ne pas être sur ces thèmes à lui. On lui a dit, vous voulez être président, il ne va pas falloir parler que d'immigration.
Patrick.
Bon, on ne va pas se mentir, on n'est pas les meilleurs juges pour ce film, parce que les scènes qui sont montrées nous sont, à nous, particulièrement familières, et à moi aussi particulièrement. Mais je vais répéter ce qui s'est dit tout à l'heure, que les citoyens, auditeurs, téléspectateurs puissent voir quel est le travail en amont, quelle est l'intention des journalistes, quels sont leurs doutes et leurs interrogations, comme on vient de le voir dans l'extrait avec Marion Lagardère, c'est particulièrement important. C'est de nature à retisser en tout cas un lien de confiance, à voir qu'il n'y a pas de manipulateurs, de marionnettistes et de choses qui sont insincères dans le travail au quotidien, surtout sur une période aussi importante. On le voit aussi dans les relations, dans l'histoire, le feuilleton Mélenchon. Comment faire revenir Mélenchon, qui était fâché à cause d'une photo publiée sur le site. Bon, voilà. Et donc, Mélenchon vous fait savoir qu'il est dispo pour une interview, mais à La Réunion.
Oui.
Alors, si vous voulez m'interviewer, venez sur l'île de La Réunion. Vous
on
y allez, vous y allez, parce que toi, tu te fais porter pâle.
Donc, non, moi, j'étais à la maison. Oui, pardon, j'avais le Covid.
Oui, hein, oui c'est ça, voilà.
Ah, j'avais une bonne excuse. Pour
et donc, on va voir ce petit extrait avec cet échange où Mélenchon s'adresse à vous.
Avec qui je suis fâché chez vous, je ne me rappelle plus.
Avec
qui
je suis fâché?
Avec tout le monde.
Plus personne, visiblement.
L'autre jour, j'ai fait un TikTok avec un chien, on a fait 5 millions.
C'est Valérie Pécresse aussi.
Non.
Sans déconner. Tu fais un discours politique, 300 000. Tu donnes la patte à un chien, 5 millions de vues. 5 millions.
Allez, voilà. Et on retrouve Jean-Luc Mélenchon,
il est venu
obsédé
après,
par l'audience. Enfin, oui, obsédé, oui.
Si, par le très pouvoir des réseaux
polarisé
sociaux.
Par l'audience qu'il peut avoir. D'ailleurs, c'est le débat qu'on a en ce moment, qu'il a en ce moment lui-même vis-à-vis de l'émission de Cyril Hanouna.
Cyril Hanouna, oui, exactement.
Ça vous inquiète, justement, le pouvoir des réseaux sociaux? Parce que c'est une bonne façon pour la responsable politique de ne plus passer par les journalistes,
c'est
bien sûr.
C'est pas la même chose.
Ouais.
Non, mais en fait, eux, ils se sont dit pendant la campagne présidentielle, on va peut-être à un moment pouvoir squeezer les médias traditionnels. La vérité, c'est que non, en fait, parce que les réseaux sociaux, c'est des fake news. Il y a beaucoup de fake news. C'est beaucoup de ton haineux. Le ton est haineux. Et nous, justement, c'est le but du film, c'est de montrer que un média mainstream, c'est une déontologie, c'est un savoir-faire de journalistes, c'est des journalistes qui vérifient leurs informations avant de les sortir. Il y a une rigueur particulière chez France Info et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film-là.
On n'élit pas un président sur TikTok.
Voilà.
On a besoin d'interviews en longueur, on a besoin de contradictions. Les politiques ont parfois beaucoup de mal à entendre le fait que dans une interview politique, on doit leur apporter la contradiction. On est même payé pour ça.
Oui, mais ils sont tentés quand même. Hein.
C'est pas l'opposition. Donc, Jean-Luc Mélenchon, quand il vient, n'est pas content et nous dit « vous êtes le grand capital ouais. ». Marine Le Pen, quand elle vient, est interrogée avec contradiction, on essaye en tout cas, et elle nous dit « vous êtes la radio de la NUP ». Les macronistes nous accusent de rouler pour les Républicains, qui nous accusent de rouler pour Macron. Mais voilà, parce que c'est notre job, en fait.
Oui. Vous les préparez tous les deux longuement, on le voit. Vous n'êtes pas les seuls, parce que les candidats que vous recevez le font aussi, les candidats ou les responsables politiques. Exemple, Jordan Bardella.
J'ai tout, j'ai des chiffres, j'ai...
Mais vous n'avez pas compris que les chiffres, à chaque fois, nous, on les vérifie.
Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça, mais quand on donne pas de chiffres, vous nous dites que vous n'avez pas de chiffres, et quand on en donne trop, on dit « Ah bah non, mais attendez, il faut qu'on les vérifie, on va les fact-checker, machin. »
Bah, on les fact-check à chaque fois.
Et nous, quand on est fact-checké, c'est en fait, on a raison, mais c'est « il a tort, mais pourquoi c'est plus compliqué ?» En fait, on explique qu'on a raison, mais qu'on a tort.
Bah parce que
c'est très bon, les fact-checking de mauvaise foi, comme ça, moi, j'adore.
Non, parce que vous faites des raccourcis en permanence.
Les meilleurs, c'est ceux de l'AFP. En fait, il a raison, mais pourquoi il a tort? Pourquoi c'est plus compliqué? Donc c'est oui, mais non, mais en fait, oui.
Jordan Bardella, laissez ses fiches. Je pense que le taux de c'est un retour à l'absurdistan, écrit-il. Putain, il a plein de fiches. Ouais, c'est pas bien, il faut relire.
Il descend, il doit pas me le donner, mais...
Bah, je voulais regarder.
Bon, je dis que c'est pas bien de regarder les fiches.
Ouais, c'est pas
ah oui,
c'est des petits regrets.
C'est parce qu'il y avait une caméra,
c'est ça. Non, mais Jordan Bardella, oui, il arrive avec un paquet de fiches, plein de chiffres, des punchlines à caser.
Mais il essaye clairement de discréditer justement l'exercice de fact-checking. Ça, c'est un peu inquiétant, quoi.
Oui, en expliquant, il n'est pas le seul à le faire, qu'un chiffre peut donner...
On peut en tirer différentes conclusions.
On peut en tirer plusieurs conclusions. Enfin, il y a un exemple récurrent qui est quand on nous donne les chiffres de l'immigration en disant qu'il y a tant de centaines de milliers de personnes qui arrivent en France. On oublie que dans le lot, il y a les étudiants, qu'on
va
pouvoir partir, qu'il y en a qui sortent aussi. Il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui sortent. Donc un chiffre a besoin d'être contextualisé. Effectivement, le fact-checking ne s'arrête pas.
C'est vrai, c'est faux.
Dire c'est vrai ou c'est faux. Très souvent, c'est beaucoup plus nuancé que ça, heureusement.
Ce que les spectateurs vont pouvoir découvrir aussi, c'est qu'une campagne présidentielle, c'est un marathon. Pour les journalistes, qui est un marathon.
Alors, c'est l'inverse d'un marathon, parce qu'un marathon, pardon de vous couper, on perd du poids pendant concours, et une campagne présidentielle, on en prend.
sur le côté, pas du régime alimentaire, si vous voulez tout savoir, Marc Ouvel. Mais en tout cas, est-ce que vous étiez soulagée, Salia, quand cette campagne s'est terminée?
Oui. Bah oui, parce que déjà d'être en matinale, c'est une épreuve, Patrick Cohen le sait, mais en plus, on ne décroche jamais pendant une élection présidentielle, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde de football pour nous, on ne décroche jamais, on mange politique, on dort politique, on rêve politique, on fait tout politique. Et donc à un moment, bah oui, quand ça s'arrête, on est content, Mais en même temps...
On est un peu triste aussi.
Et d'ailleurs, ouais, Marc, le soir du deuxième tour, ouais, et ça, ce sont vos propres mots, alors, vous vous dites que vous vous êtes fait chier sur le résultat, une fois le résultat donné.
Parce que le second tour était... Il n'y a pas le même suspense. Enfin, premier tour, tout est surprenant. Enfin, chaque chiffre va avoir des conséquences pendant 5 ans. Valérie Pécresse, on se dit derrière, il y a un chantier costaud. Emmanuel Macron... Enfin, le second tour n'a pas le même retentissement, forcément. À 20h02, l'élection est terminée. Ouais. On est poli, on va un peu plus loin dans la soirée. Mais ça n'a pas le même charme pour ceux qui aiment la politique ou qui s'intéressent tout simplement à l'avenir.
Patrick est d'accord.
Je vais faire mon Mélenchon, je vais parler audience. Hier, Médiamétrie a révélé les audiences de la radio pour cette rentrée. France Info est 3e radio de France. Votre matinale rassemble 2 410 000 auditeurs entre 7h et 9h30. Elle est donc en super forme, même si, comme mardi, il y a des matins où Marc ne sait plus quel jour.
Ah oui. Oh non.
Bonjour Camille Rebel.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Bien et vous?
Très bien, nous sommes mercredi, vous savez ce qui se passe le mercredi?
Je ne sais pas, dites-moi.
C'est Renaud Dely qui vous passe le micro.
Sauf qu'on est mardi, Marc Fauvel.
On est mardi?
Eh oui. Vous êtes toujours en avance sur votre temps, Marc.
Oh là là.
Bon, et eh ben on va la refaire.
Bon, bonjour bah écoutez, Camille Rebel. Bonjour Marc.
Comment allez-vous?
Très bien en ce mardi.
On est avec vous jusqu'à midi. Quel est le programme de ce mardi?
Eh bien, pour un mardi, nous n'avons jamais été aussi nombreux.
Eh ben oui, comme
c'est
vous
le mur des, c'est le mur des 30 kilomètres.
C'est le mur des 30 kilomètres, exactement.
C'est pas vrai.
Si. Pardon,
ah, il est comme ça. Mais c'est Renaud Dely, discours d'avant, qui m'a dit n'oublie pas qu'on est mercredi.
Et toi, t'étais impatient de faire une niche à Renaud comme tu fais tous les mercredis.
Je n'en reviens pas.
C'est pas beau.
Ah, mais moi qui adorais Renaud Dely, qui présente les informés tous les jours de 9h à 9h30, ça c'est là. C'est la fin, la conclusion de cette matinale,
ouais.
Voilà, qui démarre à 7h avec l'interview politique aux côtés de Salia. Service public, un excellent film signé Salia Braclia, Mouloud Achour, qui sort au cinéma mercredi.
Et une avant-première prochain. Évidemment, comme on sort au cinéma, on fait une avant-première à la Maison de la Radio. Ce sera donc mardi 22. Donc tous ceux qui ont envie d'y aller, ils peuvent s'inscrire sur le site mediaenscène.fr.
Donc dimanche soir devant nos télés, ouais. Et mardi ou mercredi, à partir de mercredi,
tout à
au,
fait.
Cinéma.
Au cinéma.
Mardi, si je peux me permettre, vous avez autre chose normalement. Hein.
Oui,
ah oui, c'est vrai.
Je crois qu'il y a un petit
peu. Oh là là, la compétition.
Ça ne rien, mais bon.
Non, on est à 20h. On a fait exprès, juste avant. Juste avant.
20h, on sera devant notre télé.
Vous pouvez venir.
À Orly, avec des amateurs de foot, des clubs de foot, des jeunes. On va se régaler devant ce France-Australie. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. C'est notre avançante ou...
Non, c'est notre gardien de but.
Ah bon, bah, le gardien de but, est-ce qu'il peut arriver? Et tu vas voir, il n'arrive pas, il n'est pas là, il n'y a pas de jingle, il n'y a rien. Oui. Allô, Mathieu. C'est même pas la peine...
On est toujours le plus costaud au cage, c'est pour
bonsoir
ça.
Bonsoir à toutes.
C'est même pas la peine d'aller au cage. Oui. Alors, changement de sujet.
J'ai essayé de faire un signe pour dire qu'on va changer de ton radicalement. Exactement. Désolé de casser l'ambiance.
Les jours se suivent et les violences se poursuivent en Iran.
Oui, avec selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 342 manifestants tués dans la répression des manifestations depuis le 16 septembre dernier, depuis la mort de la jeune Mahsa Amini. Mais une mort attire particulièrement notre attention ce soir, celle de ce jeune garçon d'une dizaine d'années seulement, le petit Kian Pirfalak, probablement tué par les forces de sécurité alors qu'il rentrait en voiture avec son père. Une mort qui a choqué et évidemment. Vive émotion sur les réseaux sociaux. Ces images que vous voyez, ce sont celles que la famille diffuse non-stop depuis quelques heures. Des images de ce petit garçon qui rêvait de devenir inventeur.
پس ما نتیجه میگیریم که این کار میکنه آزمایش ما با موفقیت انجام شد.
Kian Parfalak avait donc 9 ou 10 ans selon les sources. Et si j'ai dit que ce sont probablement les forces de sécurité qui sont en cause, si le président iranien ordonne d'agir immédiatement, je le cite, pour identifier, traduire en justice et punir les auteurs de l'attaque, c'est que l'État iranien affirme que c'est dans un attentat terroriste que le jeune garçon est mort, mais sur place, personne n'y croit, à tel point que la famille n'a pas voulu que le corps du petit passe par la morgue de peur qu'il ne disparaisse. Ils l'ont gardé à la maison dans un réfrigérateur avec de la glace. Avant ces images d'un cortège portant le cercueil hier soir rapidement, Kian Pirfalak a été enterré ce matin.
«
Des enterrements filmés, il y en a beaucoup ces dernières semaines, avec de nombreuses scènes de cortèges massifs d'Iraniens qui tiennent à se montrer debout lorsque l'un des leurs tombe. Écoutez cet homme qui parle à la foule alors qu'il vient d'enterrer son fils. Le regain de tension, si j'ose dire, de ces derniers jours tient aussi à un énorme mouvement de grève en Iran cette semaine, deux mois après la mort de Mahsa Amini, mais aussi à l'occasion du troisième anniversaire d'un autre soulèvement lors duquel 300 manifestants avaient été tués en quelques jours. Ces images de boutiques fermées à Téhéran, parfois, il faut bien le dire, par crainte aussi de dégradation, mais aussi ce site métallurgique d'Ispahan, par exemple, en grève. Ce sont les ouvriers que vous entendez mobilisés devant leur usine. Une dernière image, une maison en flammes à près de 4 heures de route de Téhéran, mais pas n'importe quel bâtiment. Cette maison, c'est une relique quelque part. C'est la maison du fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini. C'est aujourd'hui un musée, symbole, s'il en fallait encore un, que le régime a de plus en plus de mal à contenir cette révolution.
D'autres manifestants là où on ne les attend pas.
Oui, c'est très rare de voir des Chinois protester, manifester. On parle même d'explosion de colère à Canton contre la politique zéro Covid en vigueur là-bas. On est au sud de la Chine, à Canton donc la plus grande ville au sud du pays, troisième ville la plus peuplée de Chine. On est près de 15 millions d'habitants et toujours cette politique sanitaire qui implique des mesures drastiques et décisions de confinement localisées mais sévères, au moindre cas dépisté. Et Canton, il faut le savoir, c'est aujourd'hui le principal foyer épidémique du pays. Un district de la ville est confiné depuis plusieurs semaines et s'il est difficile de sonder l'opinion publique chinoise, il est aisé de comprendre que ce district reflète une forme de ras-le-bol de la population. D'abord, des manifestations se sont tenues, ce qui est déjà très rare. Des vidéos ont commencé à montrer des habitants repoussant les barrières de police. Et puis le bouchon a sauté malgré la présence des forces anti-émeutes. Voilà plusieurs nuits que l'on voit des manifestations dégénérer. Cette image en particulier, des émeutiers renversant une voiture de police. Vous mesurez bien comme c'est rare de voir des Chinois se rebeller ainsi contre le pouvoir et les forces de l'ordre.
Just last week, there were temporary closures in several neighborhoods near our district and even in ours.
Et déjà la construction express d'un centre d'isolement, comme on en a déjà vu en Chine, de grands bâtiments pour isoler les malades, celui-ci qui devrait bientôt sortir de terre et qui pourrait accueillir 250 000 patients.
Retour en France et à une information plus légère, c'est l'événement télé de cette journée, la fin de la série Plus belle la vie à la télévision.
Passage obligé, il suffit de quelques notes, bien sûr, pour reconnaître le feuilleton qui, pendant 18 saisons, aura attiré de nombreux téléspectateurs sur France 3 en début de soirée. 18 saisons, 4665 épisodes dans lesquels 3232 acteurs se sont illustrés.
3000
de figurants, de passage.
Oui,
18 saisons,
pas derrière,
18 saisons
figurants,
ouais. En quotidienne, hein, quand même. Sûr. Il y a fait beaucoup d'épisodes à l'année. Des acteurs, des techniciens qui se sont illustrés. À la fin du tournage, ils ont montré les coulisses sur les réseaux sociaux, les dernières scènes ces dernières semaines, non sans émotion.
C'est une fin de Plus belle la vie pour Léa. Dernière séquence du grand Thibaut Ballet.
Bravo!
J'ai fait ma première séquence juste là.
T'avais quel âge?
J'avais 20 ans.
C'est-à-dire
qu'il y a 37 ans, c'est la maison, ce qui fait de vous, la famille.
Plus belle la vie était lancée en 2004, un soap à la française, à Marseille, dans ce quartier imaginé du Mistral. Regardez cet extrait, c'est la première saison 2004, donc reportage Making of de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Plus belle la vie, tous les soirs sur France 3. Plus belle la vie, c'est le nouveau feuilleton quotidien que vous allez découvrir à partir de ce soir à 20h20 sur notre chaîne.
Trois caméras sur le plateau autour des acteurs et deux équipes de réalisation qui alternent. L'une prépare les épisodes suivants tandis que l'autre tourne.
Le plus dur, c'est de passer d'une séquence à l'autre qui sont d'un épisode à l'autre. Dans la même journée,
C'est quand même l'histoire d'un panel de gens assez variés, aussi bien de par les origines ethniques que par les âges, que par les classes sociales.
18 ans après, la série se termine donc et les fans ont pu visiter ces derniers jours, ces dernières semaines, les studios de La Belle de Mai, les plateaux de tournage à Marseille, 1000 mètres carrés de faux immeubles, de fausses ruelles. On a envoyé Louis Amar et Camille Schmitt sur place qui y ont rencontré Christiane, Germaine et Cathy.
C'est l'histoire de Marseille, de ce qui voilà. se passe tous les jours.
C'est un peu triste, un peu gay, un peu de tout. C'est magnifique. Oui, voilà. C'est magnifique, c'est dommage. Oui,
ouais. On n'aura plus les feuilletons.
Mais non. Si, on aura encore le feuilleton. T'inquiète pas, écoute, oui. D'après certaines rumeurs, peut-être ça va reprendre.
Aujourd'hui, c'est la fin.
C'est la fin et ce soir, c'est télé, apéro et télé.
Alors évidemment, on a choisi de suivre Christiane, Germaine et Cathy dans le studio de tournage de Plus belle la vie, musée éphémère, place à la visite.
Vous venez d'où? Du 13 ans
d'ici ouais. Marseille, oui, voilà.
Là, vous êtes dans un endroit qui vous est familier.
C'est les studios, ça.
C'est quoi ce bureau, là, madame?
Je crois que c'est où il y a Bauer. Ce Bauer, là. Des fois qu'il se met là, oui. J'ai écrasé le pied de quelqu'un. Pardon. Ça, c'est la prison.
C'est la prison, oui. On avait renfermé... Dis-moi.
On enferme tous les prisonniers.
C'est super. Enfin, le bar du Mistral.
C'est exactement comme à la télé?
Ouais, c'est pareil. Ouais.
La cuisine, elle est belle, hein?
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé de si important dans ce bar?
Beaucoup de choses, il s'est passé dedans. Beaucoup,
beaucoup. Vous avez l'impression d'avoir vécu 18 ans ici?
Ah oui, presque. C'est là, le Marcy. Et bien là, on est au Marcy, chez le fils de Roland.
Donc en face du bar de Roland.
Voilà, en face, oui.
Et vous êtes plutôt Mistral ou Marcy?
Ah, moi, j'aime bien les deux.
Oh, trop facile.
Ah ben non. Mais c'est vrai que Roland, depuis le début, c'est mieux.
Bon, c'était comment?
Super bien. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'allais visiter les studios et tout.
Plus belle la vie dernière ce soir. Donc deux épisodes suivis d'un épisode épilogue d'1h40 et d'un documentaire sur la série.
C'est dans vos horaires ça, Marc?
C'est en pleine nuit. Je ne sais pas pourquoi on diffuse ces choses-là en pleine nuit.
Donc mercredi prochain, il faut aller au cinéma. Merci beaucoup Salia et Marc Fauvel d'être venus. Salia Braclia, Marc Fauvel. Merci beaucoup Madame la Ministre d'être venue ce soir. Rendez-vous donc mardi pour le premier match des Bleus. Je te signale que demain, à 20h30 sur France 2, il faut regarder les rencontres du Papotin, ces journalistes de cette rédaction formidable qui interrogent Julien Doré. C'est un miracle à chaque fois cette émission, et le miracle opère également demain. Dans un instant, on a un invité exceptionnel qui n'a pas choisi France Info, tiens, pour parler de son nouvel album.
Paul Naref,
chante Paul Naref.
Sur France Info, 7h20 ce matin.
C'est notre invité à nous, Michel Paul Naref. Et là, pendant jusqu'à 20h55.
Je sais bien.
Je ne sais même pas si je vous autorise à le croiser. Tenez-vous bien jusqu'au bout.
Oui.
Merci beaucoup à tous les trois. Restez avec nous et avec Michel Paul Naref. À tout de suite.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.